Hello, je suis Victoria et je te souhaite la bienvenue sur Nouvel Oeil. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, l'écologie, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Alors je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde sous un autre angle, pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es pour t'aider à trouver ton chemin et surtout, à oser.
De me dire, bon bah si les autres ils n'y arrivent pas, ça veut pas dire qu'on peut pas. Et si les autres me disent qu'on peut pas, alors je vais essayer. Il y avait quelque chose d'un peu rebelle en moi. Et quand on est honnête avec soi-même, on devient honnête avec les autres. Et c'est là où les vrais partages et les partages profonds peuvent se faire.
Elle fait de la poésie avec ses mots. Elle les dépose sur du papier et elle les fait résonner dans les cœurs avec une voix toute douce. Elle m'a écrit un matin sur Instagram et j'ai su. Il y a des connexions qui n'ont pas à être réfléchies. Elles se vivent. Elle m'a invitée dans sa cabane au milieu des Pyrénées pour y vivre 2 jours. Et c'est là qu'on a allumé le micro jaune. Ilham Berdi est à elle-même une ode au vivant, au sacré, au beau qui vit en nous et tout autour. Elle écrit et construit des livres et des habitats légers, entre les métamorphoses intérieures et celles qui s'ancrent dans la matière. Je n'ai pas trouvé mieux que de reprendre ces mots pour introduire cet épisode, alors les voici en guise d'invitation joyeuse à nous rejoindre. Repenser nos modes de vie en ne gardant que l'essentiel. Oser s'aventurer, en dehors et en dedans. Préserver le chemin vers l'émerveillement. Faire corps avec les éléments, les animaux, tout le vivant. Et célébrer, encore et toujours, la vie. Le miracle est ici. Avec Ilham dans cet épisode, on parle de poésie, de métamorphose et de beauté. J'espère que cette écoute initiera l'aventure en dehors et en dedans. Salut Ilham.
Salut Victoria.
On est dans ta cabane étoilée au milieu des Pyrénées.
Ouais.
Tu m'as accueilli ici pour 2 jours. Ce lieu est merveilleux. Tu es merveilleuse. Je suis très heureuse de te tendre mon micro jaune. Tu as 29 ans et notre rencontre est le fruit d'un bel hasard sur les réseaux sociaux. La lecture d'un de mes posts t'a amené jusqu'à moi. Donc je suis très heureuse qu'on crée ce moment aujourd'hui. Tu es donc l'hôte de ce merveilleux lieu et tu es aussi écrivaine. Comment est-ce que tu pourrais te décrire au-delà de ces deux étiquettes, si on peut appeler ça comme ça?
Alors, deux étiquettes qui tout de suite donnent un petit cadre à ceux qui ne me connaissent pas. Mais c'est vrai que je suis bien plus que ça. On est bien plus que nos métiers, nos occupations, nos actions même. Comment je pourrais me décrire aujourd'hui? J'essaye vraiment de relier un petit peu tout ce que je fais autour du prendre soin du vivant. Donc d'être vraiment dans cette attention à la vie qui nous traverse, qui nous entoure, parce que le vivant il s'arrête pas du tout à la nature, il est aussi à l'intérieur et puis c'est pas la frontière de nos corps qui délimite tout ça. Et donc souvent je me dis aussi que je suis un petit peu gardienne de cette vie, de cette intelligence qui est partout. Et je sens que j'ai une forme de responsabilité de prendre soin de tout ça. C'est pas une responsabilité dans le sens je dois faire ça, mais plutôt une responsabilité dans le sens où j'ai envie d'honorer toute cette intelligence qui me donne tant, qui donne tant à tout ce qui est autour de moi et qui fait que chaque jour est merveilleux un petit peu.
Et que tu as donc envie de protéger cette vie.
J'ai envie de le protéger vraiment en réalisant en fait plein d'actions qui sont au service de tout ça.
En t'exprimant poétiquement aussi, et en ramenant les gens aussi physiquement là dans des lieux merveilleux au milieu de la forêt. Et en parlant de vie, qu'est-ce qu'elle t'a appris jusqu'à aujourd'hui? C'est une question que je pose à tous mes invités en introduction.
Large question.
Oui.
Déjà, elle m'a appris que tout est à sa juste place. Que voilà, là en plus, on est dans la cabane, on voit tellement d'harmonie dans la nature, dans les arbres, dans les feuilles quand elles sont au sol aussi. Et dans nos vies d'humains, d'humaines, j'ai aussi l'impression qu'il y a vraiment cette justesse dans tout ce qui nous arrive, dans toutes les rencontres qu'on fait. C'est pas un hasard, entre guillemets, si tu es là, il y a vraiment quelque chose entre nous qui a fait qu'on se rencontre et que des choses comme ce podcast et comme bien d'autres choses peuvent émerger. Et c'est aussi le cas de tout ce qui nous arrive, de nos épreuves. Je pense que la vie, elle m'apprend vraiment à quel point les épreuves, elles forgent, en fait. Elles forgent et elles permettent d'offrir quelque chose de beau après et d'aidant à nous-mêmes et aux autres.
Est-ce que déjà, dès toute petite, tu étais à l'affût de cette intelligence vitale?
Je pense que toute petite, j'étais vraiment sensible à tout ce qui se passait autour de moi. Je passais beaucoup de temps seule, en silence. Je me souviens avoir un petit coin chez moi, une forme d'atelier où je bricolais plein de choses, où je peignais les murs. Mes parents me laissaient faire un peu tout ce que je voulais. J'avais vraiment une forme de reliance, en fait, inconsciente à ce qui était autour de moi. J'ai la chance d'avoir grandi en campagne, d'avoir des parents qui sont aussi sensibles aux questions écologiques, qui m'ont ouvert à beaucoup de choses. On a voyagé. J'ai eu ce terreau qui a fait que j'ai pu m'ouvrir à cette sensibilité, à ce lien à la nature. Et puis après, il y a eu l'école.
Comment tu te sentais à l'école?
Il y a eu le collège, j'ai fait des études assez longues parce que j'ai fait la fameuse classe préparatoire. Oui. Et je pense que d'un côté, l'école m'a énormément servi et m'a appris aussi à voir comment la société était aujourd'hui. Et en même temps, je viens aussi d'une famille, ou en tout cas j'ai ça en moi, de vouloir m'adapter à la société, de vouloir faire bien. Et donc j'étais une très bonne élève, mais en même temps je me suis peu à peu en fait coupée de cette reliance que j'avais au vivant et à ma propre nature quand j'étais gamine. Et je pense que la classe préparatoire, ça m'a complètement coupée de tout ça. J'ai été le plus éloignée de moi-même à ce moment-là, en fait.
On la sent venir, cette déconnexion, ou est-ce qu'elle se fait sur le temps long, de manière très vicieuse?
De manière très, très vicieuse. Je compare souvent ça à une rupture amoureuse. Parfois, c'est comme dans un couple où ça va mal, on va dire. On peut s'éloigner de nous-mêmes parce que justement, on a envie de rester dans cette relation. Et là, moi, c'était une relation à la communauté, à la société, à ma famille aussi, au fait que voilà, j'avais envie de répondre aux exigences. Et après, quand les premiers signaux, les signaux se font de plus en plus forts de cette déconnexion, je pense qu'on se voile la face un temps. On se voile la face jusqu'à ce qu'en fait, à un moment, les signaux soient trop forts.
Pourquoi on veut pas les voir, ces signaux?
Pour toutes ces raisons-là, pour toutes ces peurs de couper ce lien à l'autre, à la communauté, à la société. C'est cette peur d'être dans le vide, en fait, finalement. On a vraiment peur de... On a souvent le peur d'être seul, de manquer, de perdre pied aussi. La perte de sens quand on quitte, je sais pas, soit un chemin scolaire ou un chemin professionnel. Que va-t-on faire après? Quand on se dit qu'on n'a aucun talent parce que... en ayant fait des maths et des choses qui sont peut-être éloignées de... Enfin, pour moi, c'était ça. Hein. Après, il y en a d'autres, c'est l'inverse. Mais moi, en ayant fait un cursus scientifique, beaucoup de maths et tout ça, je me disais, mais que vas-tu faire après, en fait? J'avais l'impression de n'avoir aucun... Enfin, rien d'autre. Et le vide, en fait, a créé cet espace-là pour découvrir d'autres choses. Ouais.
Et une des choses fondamentales qui t'a aidé justement à faire face à ces peurs et à ces questionnements, c'est l'écriture.
Tout à fait.
En 2021, tu as publié ton premier essai, Éloge des chenilles. Et c'est après un burn-out et une remise en question donc de ta jeune carrière que tu t'es mis à aborder de façon poétique les métamorphoses humaines. Donc au final, quelle a-t-elle été ta métamorphose à toi?
J'ai plein de métamorphoses. Tous les jours est une métamorphose.
Et celle qui a marqué la rupture entre les attentes de la société et toi, ton une humanité profonde et ce à quoi tu aspirais profondément.
Ouais, ça a été vraiment une grosse métamorphose qui s'est jouée là autour de mes 25 ans. J'étais au début de ma carrière pro, j'avais un job de rêve en fait. Job de rêve à mes yeux et aux yeux de la société, de mon entourage. Je gérais une ONG dans l'entrepreneuriat social. Une ONG que j'avais créée de toutes pièces avec des financements d'une organisation française, l'AFD. Et donc j'avais une équipe de 10 personnes à gérer, un lieu, plein d'événements. C'était un très beau projet. Et j'ai aucun regret d'ailleurs parce que ça m'a vraiment porté et apporté beaucoup. Mais en fait, à un moment, je me suis vraiment rendu compte que ce que je prônais à travers ce projet, donc de l'entrepreneuriat social, environnemental, des belles valeurs derrière tout ça, finalement, intérieurement et individuellement, j'arrivais vraiment peu à l'incarner. Et je faisais des conférences, j'animais des tables rondes avec des gens qui apportaient vraiment des belles idées autour de projets, et c'est ce qu'il y a beaucoup dans le milieu start-up aujourd'hui. Et certains le font vraiment et incarnent vraiment puissamment ce qu'ils disent. Et beaucoup d'autres sont un peu ou beaucoup éloignés de ça parce que nos modes de vie rapides, stressants, ne permettent pas d'être vraiment reliés à ce qu'on dit et reliés à cette nature qui est intérieure. Et à un moment où je me suis dit, bon, j'en ai marre de manger des salades dans du plastique d'aller vite, de prendre l'avion un peu partout parce que j'étais en Afrique du Sud à ce moment-là, donc loin aussi. À ce moment-là, je me suis dit, et puis d'être trop stressée surtout.
Et d'en venir à l'épuisement de l'élan vital aussi.
Voilà, d'être vraiment dans un état où à un moment j'ai craqué. C'est à ce moment-là que le voile tombe, où je me dis, je ne peux plus continuer. J'ai envie de répondre à ces élans, à ces intuitions, à ces manières de gérer aussi une organisation qui sont beaucoup plus connectées à ce que je ressens. Et donc je me suis dit, il est temps de quitter le bateau et de créer autre chose. Et donc j'ai quitté ce travail. Et c'était un tel déchirement parce que j'y avais mis beaucoup et parce que j'étais passionnée. Et que pour une fois, je me disais, on peut avoir un boulot passionnant. C'était un tel déchirement de me dire, je vais quitter tout ça, que je me suis dit, bon bah là, je m'engage avec moi-même à ne suivre que mon intuition et à vraiment répondre à ça. Alors on appelle ça comme on veut, hein, la petite voix, Dieu ou ce qu'on veut, mais vraiment, c'était quelque chose qui partait du bas-ventre, de quelque chose qui était très, très corporel.
Mais à ce moment-là, ton intuition, elle te disait quoi? Est-ce que tu avais une vague idée de ce à quoi tu aspirais pour les prochaines années?
Non, elle me disait surtout, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce qui n'allait pas, en fait, c'est mon corps qui me le disait. C'est qu'à ce moment-là, ça faisait un moment que mes règles, mes cycles s'étaient arrêtés. Et donc, au-delà de l'anxiété que je pouvais avoir, mais qui me paraissait normal puisque j'avais connu que ça, il y avait mon corps en fait qui me parlait et qui me disait, là il faut changer, là il y a quelque chose à faire. Et cette intuition me disait simplement, repose-toi profondément et ouvre-toi à autre chose. Et en fait, en quittant tout ça, je me suis reposée, je me suis ouverte au plaisir de la vie, à vraiment prendre le temps, reconnecter à la lenteur, me découvrir aussi et devenir vraiment authentique avec moi-même et avec les autres.
Comment on le devient authentique?
C'est à la fois un chemin et puis parfois c'est du jour au lendemain un peu. Parfois on s'en éloigne, on devient un peu faux avec nous-mêmes, justement on se voit la face avec ces émotions qu'on ne veut pas partager et tout ça. Et puis à un moment, bah, on fond en larmes et puis on se dit, bon bah, à quoi bon tout cacher? Et moi, ce qui m'a vraiment reconnecté à mon authenticité, c'était l'écriture. J'ai jamais écrit dans le but d'être écrivaine, d'être autrice. Ça a jamais été un rêve. Ça s'est vraiment imposé à moi il fallait que j'écrive. Et mon premier livre, c'est en fait que des petits poèmes qui retracent tous ces moments de métamorphose. Et ce livre, je l'ai écrit sans le but de publier ou vraiment d'en faire un livre. Mais au début, c'était, je vais écrire simplement pour me reconnecter à ce qui se passe en moi et être honnête avec moi-même. Et quand on est honnête avec soi-même, ben on devient honnête avec les autres. Et c'est là où les vrais partages et les partages profonds peuvent se faire.
Est-ce que tu as un passage en particulier qui te rend fière aujourd'hui dans ce livre, que tu pourrais nous lire ?
J'y vais ?
Ouais,
okay.
On t'écoute.
Alors le premier, c'est « Protège-toi de la peste et du Covid, des voleurs et des caïds, mais surtout, protège-toi des vitraux vides, des remarques insipides et des gens qui ne t'emmènent pas là où ton cœur s'enfuit déjà. »
Magnifique. Un deuxième pour la route. T'hésitais, alors allez, c'est
un
cadeau.
Un petit. Jolie est la folie de ceux qui osent franchir le pas quand personne d'autre qu'eux n'y croit.
Voilà. Merci.
Et le dernier.
Allez.
L'échec, c'est de ne pas essayer.
Hmm.
Apprendre matin, midi et soir pendant 21 jours.
Est-ce que tu as toujours eu cet élan d'essayer ? Ou est-ce que petite, tu étais plus réticente à oser ?
J'ai toujours eu l'élan d'essayer et de me dire bon bah si les autres ils n'y arrivent pas, ça veut pas dire qu'on peut pas. Et si les autres me disent qu'on peut pas, alors je vais essayer. Mmh. Il y avait quelque chose d'un peu rebelle en moi et je sens que ce truc là revient souvent, et notamment là avec la cabane par exemple que tu vois. Ça m'avait vraiment marqué le fait d'avoir pas mal de gens qui nous disaient « Mais votre truc, là, ça va pas marcher. Mmh. » Et c'est marrant comme d'arriver à franchir le pas, à faire cette action et à matérialiser le projet. Et puis avoir que si, finalement, quand on essaye, on finit par y arriver. Ça ancre à l'intérieur de nous que tout est possible et que vraiment... Vraiment, on peut faire des miracles un peu. Plus on essaye, et bien sûr, dans l'essai, il y a plein de choses qui peuvent foirer, hein, et ça fait partie, en fait, ça fait vraiment partie. Pour moi, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'échec aussi.
Mmh.
C'est que, voilà, même ma reconversion, mes anciens jobs, mes anciens projets, tout ça, ça a mené là où je suis, donc tout est parfait.
Et pour aussi apprivoiser cette notion d'échec, il y a deux mots qui sont importants, c'est la lenteur et la vulnérabilité. Et toi, tu fais cet éloge de la lenteur et de la vulnérabilité, autant de mots qu'on a bien du mal quand même à apprivoiser aujourd'hui dans nos sociétés. En quoi pour toi il est essentiel aujourd'hui de renouer avec ces deux choses-là ?
Ah, la lenteur, pour moi, c'est vraiment, vraiment quelque chose auquel j'aspire, enfin qui fait partie de mon quotidien. Alors, ça veut pas dire que je fais tout lentement, et bien sûr, parfois, il faut du rapide dans la vie, et tout ça n'est qu'une danse. Mais je pense que dans notre société aujourd'hui, c'est connu, on va trop vite, c'est toujours trop rapide, mais on se rend plus compte de ça. On se rend plus compte à quel point nos messages, nos notifications, nos projets, nos trucs, ça s'enchaîne, et qu'on peut vite perdre pied, perdre sens, et finalement agir sans conscience, et s'éloigner finalement de qui on est, de notre âme, et des actions du cœur. Et j'essaye vraiment d'avoir des moments dans ma vie, et chaque jour, où la lenteur s'inscrit vraiment, vraiment dedans. C'est ce que je te disais quand je parlais de la préparation de la cabane, à quel point j'adore préparer cette cabane et accueillir les gens dans cette lenteur, parce que c'est pour moi une forme de méditation. La méditation, c'est pas que s'asseoir et fermer les yeux. Bien sûr, ça l'est, et ça peut apporter cette forme de conscience aux choses. Mais après, c'est dans nos actions.
Elle se vit tous les jours,
ouais,
à chaque
vraiment.
Instant. Mmh. Et cette lenteur, est-ce qu'elle est principalement due à l'arrêt de tes règles ? Parce qu'avant, tu étais dans le speed, justement.
Ouais.
Ou est-ce que tu as quand même toujours eu une partie de toi qui aspirait à cette lenteur bien avant, déjà ?
Je pense que, humainement, on est assez lent, finalement. Enfin, en tout cas, c'est pas qu'on est lent, c'est qu'on est plus lent que ce qui se passe aujourd'hui. Il y a 100 ans, on vivait tellement plus lentement. Et ça se voit dans les arts, dans les maisons qui se faisaient avant, à quel point les gens étaient attentionnés aux détails et vraiment à ce qu'ils faisaient. Donc je pense qu'il y a vraiment ça en moi, cette forme de lenteur. Et après, bien sûr, le fait que mes cycles se soient arrêtés, et que pour les retrouver, ce soit à travers la lenteur finalement, ce soit à travers reconnecter au mouvement lent, reconnecter à l'alimentation aussi bien préparée en fait, bien cuisinée. Et donc c'est une vraie attention, une vraie lenteur dans ce qu'on fait et dans ce qu'on mange. Tout ça, ça a fait que bien sûr j'ai compris à quel point c'était non seulement important mais vital pour moi.
Ouais. Quand on fait la transition justement d'un mode de vie qui est très rapide à un mode de vie beaucoup plus lent, comment est-ce qu'on se sent ? Est-ce que tu avais l'impression d'avancer à contre-courant par rapport au reste de la société ? Est-ce que ça te remettait en question tous les pans de ta vie ? Qu'est-ce que tu ressentais ?
Ah, complètement, complètement. C'est... Au début, en tout cas, c'est vraiment une impression de se sentir à contre-courant. Parce que, bien sûr, bon, y a l'entourage qui est là, qui n'a pas l'habitude de nous voir comme ça et de nous comprendre comme ça. Donc, il y a leur peur qui se projette sur nous.
Et peut-être même du jugement. Voilà, tu fais marre, t'en fais pas assez, bien la vie, sûr. C'est pas ça.
Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais encore très sensible à tout ça. Alors qu'une fois qu'on déconstruit et qu'on devient plus confiant dans notre manière de faire, on est moins sensible. Et puis finalement, notre entourage, il devient beaucoup plus relax aussi sur tout ça. Et puis, il change aussi cet entourage. J'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont vraiment ouvert la voie et qui m'ont inspirée. Mmh. Et d'ailleurs, tu as pu rencontrer aussi des personnes sur ce lieu avec qui maintenant je crée des projets et qui sont dans cette forme de vie. Et donc, je me sens plus seule, je me sens plus à contre-courant. Finalement, je me sens dans un autre courant, un courant qui émerge et où il y a de plus en plus de monde aussi qui se rallie. T'as dû en rencontrer beaucoup,
oui.
Mais on n'est plus seul et on n'est plus à contre-courant en fait, on est dans le courant.
Tu dis oser s'aventurer en dehors et en dedans. Comment on fait pour s'aventurer en dedans ? On nous apprend pas ça.
Ouais, bah, l'aventure c'est vraiment sortir de sa zone de confort, c'est aller dans l'inconnu, c'est aller explorer, donc vraiment chercher ce jeu et cet intérêt pour le risque un petit peu. Et moi, en fait, je parle beaucoup d'aventure parce que j'ai été toujours entourée d'aventuriers. Mon père a été beaucoup en Afrique et passionné d'aventure, donc j'ai vraiment baigné là-dedans. Et puis, à travers mes voyages, j'ai rencontré tous ces grands aventuriers, enfin, tous ces grands, beaucoup d'aventuriers qui vivaient de ça. Et finalement, je me suis rendu compte que l'aventure, elle était pas que dans ces changements géographiques et cette distance prise avec là où on habite et ce mouvement dans la matière. Parfois, l'aventure, elle est vraiment dans le mouvement invisible, le mouvement qui est intérieur. Et que quand on va chercher nos peurs, quand on devient authentique, vulnérable avec nous-mêmes, avec l'autre, quand on ose aller parler à l'autre en fait de ce qu'on ressent, quand on ose se lancer dans des projets qui nous font peur, quand on change complètement de vision sur des grands sujets comme l'argent, le couple, enfin bref, plein de choses qui font notre quotidien, finalement c'est aussi des aventures. C'est vraiment, on va dans l'inconnu et on explore dans une forme de jeu, on explore d'autres choses.
Quelle logique tu vois aujourd'hui entre cette nature intérieure qu'on cultive et la nature environnante ?
Tout est pareil. Il n'y a vraiment
nous
pas
ne
de frontières.
Sommes qu'un.
Ouais, mais je pense que on dit souvent on ne fait qu'un, we are all one. Et c'est vrai.
Mais c'est pas toujours évident à comprendre.
C'est très difficile à incarner, vraiment. Entre le fait de le penser, de le dire même et de l'incarner, de le ressentir. Il y a vraiment un monde. Et c'est là aussi que se joue l'aventure. C'est d'aller vraiment ressentir cette unité avec l'arbre, avec l'eau. Et nature, c'est un concept assez, occidentale, dans bien d'autres cultures et notamment des peuples autochtones, le mot nature prend d'autres formes, parce que la nature, ça a tendance à nous distancer en fait de ce qui est extérieur à notre peau, et en fait cette peau, c'est pas du tout une frontière, c'est vraiment justement une ouverture au reste. Donc pour moi, il n'y a pas de différence du tout. L'un permet de mieux appréhender l'autre et inversement. Ouais.
Et en ce sens, comment on peut prendre soin du vivant ?
Qu'est-ce que c'est prendre soin, en fait ? Parce que chacun aura sa manière de prendre soin du vivant. Quand je parle du vivant, c'est justement utiliser un autre mot que nature pour comprendre à quel point le vivant, il est à la fois à l'intérieur de nous, à la fois en dehors de notre peau, quoi. Et prendre soin, pour moi, c'est vraiment comprendre que l'humain, il a cette mission-là et cette responsabilité-là d'honorer les cycles de la vie qui passent à travers nous, qui passent en dehors, et de permettre au vivant de se déployer. Prendre soin, ça veut pas dire protéger coûte que coûte tout. Justement, prendre soin, parfois, ça veut dire couper un arbre pour permettre au vivant et aux petites pousses de se déployer. Prendre soin, ça peut être aussi quand on prend soin d'un jardin, quand on prend soin de... C'est vraiment, on permet en fait à la nature elle-même de se déployer. Et nous-mêmes, le jardinier, il va simplement être là pour guider, pour donner une impulsion, un souffle. C'est pas quelque chose où on est vraiment les créateurs ou les... On décide, quoi. Mmh. On est juste là pour prendre soin, câliner.
Et toi, ta façon de prendre soin, c'est d'écrire. Et beaucoup de poésie, surtout. En quoi la poésie, elle peut ramener à notre essence profonde ?
La poésie, c'est un peu... Il y a vraiment un lien entre la poésie et la cabane, ici.
Mmh. D'ailleurs, j'ai envie que... toutes celles et ceux qui nous écoutent puissent voir l'ambiance là dans laquelle on est. C'est assez lunaire. Il y a la pluie au-dessus de nous. Il y a la lumière du soir qui arrive. Les montagnes
nuages aussi qui volent là. Ouais. Mais justement, ça, c'est poétique.
Ah ouais,
et pour moi, c'est ça la poésie. C'est d'insuffler une autre manière. C'est pas une autre manière, mais d'insuffler cette reliance, cette unité qu'on a avec le vivant. À travers la beauté, à travers l'émerveillement. Pour moi, on ne pourra rien faire avec des injonctions, avec de la violence, mais on pourra insuffler des nouvelles manières d'être et de faire. Et la poésie, elle permet vraiment ça. Là, dans les textes qu'on lit, par exemple, dans mon petit livre « Éloge des chenilles », on peut y voir ce qu'on veut. Il n'y a pas d'injonction. Et chacun pourra s'y retrouver à sa manière. Donc je pense que c'est ça aussi la poésie, c'est ouvrir nos paysages intérieurs pour que ça touche à une forme d'universalité et puis toucher à l'unicité de chacun en fait aussi.
Comment toi, est-ce que tu prends soin de toi aujourd'hui, Ilham ?
J'ai envie de dire ça dépend vraiment des jours. Ça dépend vraiment des jours. Prendre soin de moi... Je pense que c'est d'abord être consciente de comment je me nourris, mais comment je me nourris pas seulement de l'alimentation, j'ai envie de dire.
De relations, d'énergie,
des relations, des lieux, des gens, de ce que je mets dans mon corps, de ce que je m'offre, et des pensées qui m'habitent. C'est vraiment, enfin, c'est un tout, hein. Il y a plein d'autres choses. Et cette conscience, alors, c'est pas en continu, je m'observe pas en continu. Mais j'essaie vraiment chaque jour d'avoir une forme d'attention à tout ça. On se nourrit beaucoup des pensées, hein. Les pensées, ça nous habite et ça crée vraiment notre réalité. Et tous les matins, une forme de manière de prendre soin de moi. C'est tous les matins d'avoir ce petit moment pour moi. Un truc alors très très banal, mais qui pour moi est devenu fondamental, c'est de la culture de la gratitude. De vraiment réaliser tous les jours à quel point on est nourri, mais de tellement tellement de belles choses, et à quel point on est relié à notre entourage, mais aussi aux arbres. À quel point chaque jour j'ai la chance de pouvoir respirer. C'est super banal, hein, mais on oublie souvent, et qu'on oublie que les arbres et toute cette biodiversité, elle permet d'offrir de l'oxygène qui va directement dans mes poumons. c'est quand même dingue, quoi, de se dire, waouh, ouais, tous les jours, il y a des arbres qui sont au service de d'autres êtres, dont moi. Enfin,
et encore une fois, ça nous rappelle qu'on n'est qu'un aussi. Et voilà. Qu'on est complètement dépendant et vulnérable par rapport à ce grand tout, quoi.
Voilà. Qui donc nous dépasse. C'est ça. Et puis, ça, après tout ça, ça s'insuffle vraiment dans mes actions. Donc, j'essaye vraiment. Aujourd'hui, je suis dans une forme d'alimentation qui est quasiment uniquement locale. Et j'essaye vraiment de me relier à la terre et à la nature, voilà, à travers l'alimentation aussi, à travers aussi la cuisine. J'adore cuisiner, donc
tu viens de passer toute une après-midi à faire du pesto.
Voilà, et c'est des manières aussi de prendre soin de soi. Ça m'a fait tant de bien, voilà, de passer l'après-midi la tête dans le pesto, et tout ça, ouais, ça me nourrit.
Il aime la liberté, c'est quoi pour toi? Tu sembles très libre là à te voir. Je suis bien curieuse de savoir ce que t'en penses de cette liberté.
Alors moi, je parle souvent d'attention. Et je crois que la liberté, elle a à voir avec l'attention. C'est une forme de présence aux choses. C'est pouvoir être libre d'être qui l'on est. Et donc de porter cette attention, cette conscience sur cet être intérieur qui est complètement relié à, voilà, au cosmos, à l'univers. Et souvent on parle de liberté et on a longtemps parlé de liberté de manière sur le plan matériel parce que il y a eu dans l'histoire plein de choses qui ont fait qu'on a été coupé de cette liberté. Et aujourd'hui, on a beaucoup l'impression que l'humain est libre dans les sociétés occidentales, qu'on peut faire ce qu'on veut, manger ce qu'on veut. Les supermarchés sont blindés de tout ce qu'on veut et c'est une liberté, waouh, incroyable. Et je crois que finalement, on a quand même les menottes sur beaucoup de choses.
On est piégé.
Ouais, on est bien piégé sur le modèle économique. Je fais encore un travail énorme sur ma manière de voir ma relation à l'argent, ma relation au travail, ma relation à tout ça, parce que je sens que j'ai des modèles qui font que je me sens parfois peu libre de faire ce que je veux.
Quelle est ta relation au travail aujourd'hui? Tu as le sentiment déjà de travailler?
De moins en moins, de moins en moins. J'ai surtout le sentiment que le travail devient vraiment une joie, une forme de matérialisation en fait de ce qui me traverse. Pour moi, le travail maintenant, c'est vraiment donner à la société, au monde, c'est faire ma part, comme je te disais, hein, l'oiseau il fait sa part en nous réveillant le matin, je fais ma part en faisant cette cabane, ces livres, donc c'est concrétiser des idées, et tout ça dans une forme de joie, parce qu'en fait quand on concrétise des choses qui viennent du cœur, bah, la nature fait bien les choses, il y a une joie immense qui nous traverse.
Et ça résonne d'autant plus.
Ouais, voilà.
Ilham, je vais te poser la dernière question de ce podcast, la fameuse question signature que tu connais certainement. Quel conseil tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent?
Alors, j'ai quelque chose avec les conseils, c'est surtout prenez pas de ceux qui vous en donnent sans en avoir demandé. Mais comme je disais au début, la vie est bien faite. Chaque chose, même chaque message qu'on peut entendre, par exemple dans un podcast, dans un livre, il y a des choses qui résonnent, d'autres qui résonnent pas. Et tout ça, ça fait qu'on est nourri en fait de tellement de choses qui font que notre âme est animée et puis ose se transformer, se métamorphoser. Et je crois qu'à chaque étape, à chaque moment, et surtout à chaque difficulté, on se dit ah, je sais pas si je vais y arriver, je sais pas. Surtout être bienveillant envers soi-même, se dire c'est ok. C'est ok d'en être là, être vraiment gentil avec soi-même, parce que on peut vite tomber dans des culpabilités, dans l'envie d'être parfaite, de se défaire de plein de masques, de choses comme ça. Et en fait, tout le monde est parfait. C'est, voilà, il n'y a pas du tout de, la perfection, elle est partout. Et surtout là où on en est, en ce moment. Donc, voilà. Soyez gentils envers vous-même.
C'est beau, c'est beau, c'est beau tout ce que tu dis. Et je suis très heureuse de cette rencontre. La vie fait bien les choses, en effet. Ilham, je vais mettre tous les liens de tes livres, de cette cabane, pour celles et ceux qui seraient intéressés à découvrir ce lieu fabuleux. Merci beaucoup pour tous tes partages. Et à très vite. Je crois qu'il y a un petit bain chaud qui nous attend. avec le fameux pesto. À très vite, Ilan.
À très bientôt. Plaisir partagé, vraiment. Merci.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, n'hésite pas à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. Tu peux aussi me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Nouvel Oeil. Sur le site internet www.nouveloeil-podcast.com, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.